Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com.
Autour de nous, tout respire. Tout est interconnecté, cyclique.
De nos environnements bâtis à nos écosystèmes, tout est vivant.
Nous-mêmes sommes reliés à la Terre par la nourriture qu'on mange. Je mange, donc je suis.
Mais d'où provient cette nourriture? Et qu'est-ce qu'on en fait?
Dans ce cinquième épisode, Aube s'est penché à la fois sur notre relation à l'alimentation et à l'agriculture.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives. De prendre action, simplement, par une prise de conscience.
Le mot-clé, vivant. Oh, man! Qu'est-ce qu'on a bien pu faire hier? Je suis même pas sûr chez nous. Je reconnais pas le plafond. Oh my god, j'ai la tête dans le cul. Le hangover des hangovers, là, j'ai la bouche pâteuse, les yeux collés, un mal de crâne à faire tomber les cheveux. Non, définitivement, je suis pas chez nous. Je dois être chez un gars avec qui on faisait des shots au bar hier après le close. Faut que je trouve où je suis. Mais là, tout le monde dort encore. Je vais sortir, on verra bien. De toute façon, faut que je mange quelque chose, man. J'ai tellement mal au cœur. Ni à gauche, ni à droite, je reconnais rien. Je vais prendre à gauche. Dans le doute, toujours aller à gauche. C'est vrai en politique, ça doit être vrai en géographie. Oh, Montréal, sérieux? L'odeur du gaz, la chaleur de l'asphalte, puis la poussière des travaux. Ok, là, j'ai vraiment mal au cœur. Qu'est-ce que je donnerais pas pour juste une bouffée d'air pur? Ah, puis de l'eau. Juste une gorgée d'eau, s'il vous plaît. Faut que je trouve de l'eau avant de me ratatiner comme un raisin sec. Montréal, c'est une île bâtard, de bien avoir de l'eau quelque part. Mais ça me semble pas trop demander que de l'air pur puis de l'eau potable. Puis tant qu'à faire, de la nourriture saine, un fruit ou quelque chose. Ok, là, la mémoire m'en revient tranquillement. Ça a commencé chez Greg avec de la pizza puis de la bière. Ah, je me rappelle, on fumait batte sur batte puis cigarette sur cigarette. On est allé où après, donc? Ah oui, chez Sarah. Ah, c'est là que ça a commencé à mal aller. Il y avait de la vodka. Non, mais c'était drôle, tu sais. On a dansé dans le salon jusqu'à temps que le gars en dessous nous jette dehors. Ah, c'est arrivé au bar que là, ça avait vraiment plus d'allure. Ah, puis le McDo en fin de soirée. Sérieux, Guillaume, ton corps peut bien t'en vouloir un matin. Ok, non, là, la bass, là, comme... Non, là, ça prendrait comme une toune avec du piano ou quelque chose, là. Ok, ouais, ça va. Ah, enfin, un coin de rue que je reconnais. Si je me rappelle bien, plus bas dans la côte, il y a un petit café bio. Ça va être parfait. Je vais aller m'asseoir direct à la terrasse en arrière, à l'ombre des arbres avec le vent qui vient de la montagne. Il y a même une petite fontaine. On va être bien. Il me reste plus de cigarettes, c'est tant mieux. Je vais prendre un verre d'eau fraîche avec du citron. Ah, puis un truc léger à manger, là, des fruits puis des légumes frais. Faut que j'écrive le monologue pour l'émission aussi. Oh, on parle de quoi cette semaine déjà? Ah oui, d'alimentation saine. Hey, je vais avoir l'air du pire hypocrite, moi, avec ma soirée d'hier. Ah, mais là, un matin, je me dis que s'il y a bien quelqu'un qui comprend l'importance de manger puis boire sainement, c'est ben moi.
Pour l'épisode 3, Guillaume et moi avions rencontré Marie-Vincent, ma voisine de ruelle, qui organise chaque année la fête des voisins tout juste derrière chez moi. Dans le page en jase, l'entrevue a très vite rebondi de sujets en anecdotes qui ouvraient la porte à d'autres entrevues. L'entrevue que voici porte sur les incroyables comestibles, un mouvement citoyen qui œuvre à faire pousser des aliments gratuitement dans des bacs au coin des rues des grandes villes.
Nous, on coordonne les incroyables comestibles dans le plateau Mont-Royal.
Ah oui, nice.
Fait que là, un petit peu moins parce qu'on n'a pas de financement cette année, mais on continue à le faire. Là, tu sais, on a un projet, on veut mettre des bacs au HLM Famille qui n'est pas très loin, puis planter des légumes à partager. On l'a fait au centre du plateau l'été passé. Il y avait plein de laitues, plein de fines herbes qui poussaient, puis on en donnait aux parents qui partaient. Puis ça aussi, c'est pour contaminer les gens, là, tu sais, pour que ça devienne un plus gros mouvement. C'est un mouvement qui est parti d'Angleterre en 2008. Puis ça sème des petites affaires tranquillement. T'sais. Nous, on le fait devant nos bacs en avant. Il y a un bac aussi qui est...
Oui, je l'ai vu ici.
Il y en a un là. Puis c'est sûr qu'il y a une question de mode aussi. Il faut toujours faire attention. Faut pas que ça reste non plus justement une mode qui va passer. Mais je pense que réinventer les liens aussi, c'est ça. Puis je pense qu'il y a plusieurs objectifs pour moi dans l'agriculture urbaine. Il y a, oui, planter des légumes, mais aussi se réapproprier la terre, la connaissance, parce que, les enfants, ils savent pas tout aujourd'hui comment poussent les carottes qu'ils achètent à l'épicerie. Fait que ça, je trouve ça intéressant que les gens le voient. Il y a se réapproprier l'espace urbain aussi qui nous appartient quelque part. Puis aussi, c'est vraiment de mettre les gens ensemble. Parce que quand tu es sur le coin d'une rue, que tu plantes ton petit bac des incroyables comestibles, que tu arranges ton petit basilic que t'as, puis que t'as ta pancarte nourriture à partager, bien, les gens, ils s'arrêtent, puis ils te demandent « Pourquoi tu fais ça? » Puis « Bien oui, mais je veux dire, c'est toi qui l'as payé ce plan-là, pourquoi tu le partages? » Puis c'est... Fait que les gens, ils se parlent, puis « Ah, ouais, OK, puis c'est gratuit, ah, c'est drôle, mais pourquoi ça serait drôle que ça soit gratuit? Pourquoi ça serait drôle de te donner? » Fait que c'est ça qu'il faut recréer, puis l'agriculture urbaine, quasiment, c'est presque un prétexte. T'sais. Oui, il y a le côté nourriture, parce qu'à Todd Marden, c'est vraiment venu de la crise économique en 2008, puis les gens, mais là, maintenant, c'est 80% de la ville qui est plantée. On dit que ce soit des fleurs, c'est des légumes, c'est les arbres, c'est des arbres fruitiers, ils mettent des framboisiers, mais c'est toute une mentalité à changer, là, c'est un gros, gros défi. C'est sûr que ma génération, en tout cas, moi j'ai grandi, je suis une fleur de macadam, là, j'ai grandi ici, dans la ruelle, ici, là, les craques de trottoir, j'ai connais par cœur. Mon père avait quelques plants de tomates ici dans le jardin, mais quelque part, j'ai vraiment pas... Les gens de la ville, ils sont très loin de ça, je pense. Puis le fait de se... c'est de retourner à l'essentiel aussi, je pense. Puis le fait de remettre ses mains dans la terre, tout ça, moi, je trouve que c'est ça. Ça a plusieurs significations. C'est, oui, réapprendre la connaissance, mais surtout réapprendre à prendre le temps. C'est le rapport au temps que tu donnes aux gens, au temps que tu regardes ta tomate pousser, même si probablement il y a un écureuil qui va à manger, tu sais, puis que quelque part, on est très loin de dire qu'on va nourrir du monde avec nos petits bacs au coin des rues, là, tu sais, c'est... Moi, je pense que c'est parce qu'on est rendu tellement dans le chacun chez soi que, tu sais, tout est prétexte à ce que les gens sortent de chez eux, puis... Je trouve ça super intéressant parce que c'est surtout les jeunes, en fait. Puis, tu sais, même, je dirais, les plus jeunes que moi, là. Tu sais, moi, je vais avoir 37 ans cet été. Puis quand on fait à la Maison d'Aurore, mettons, une formation sur les semis avec échange de semences, tout ça, ou faire des ateliers de construction de bacs à réserve d'eau, c'est plein de monde. C'est comme des petits gars qui s'échangent des cartes de hockey. Moi, je trouve ça magnifique à voir, tu sais. Puis quand, après ça, quand tu regardes la gang de Villa Compostela qui ont pris... plus ou moins légalement possession d'un site de compostage qui servait à rien, qui en ont fait quelque chose de communautaire et de sympathique, puis que quelque part, parce qu'il y a tout le rapport à la Ville de Montréal, puis ce qu'on a le droit de faire puis pas faire, qu'il faut constamment gérer en agriculture urbaine. Mais je pense que quelque part, ben là, ils se sont dit, on le fait, puis ça a fini que, bon, ben la Ville a pas dit non. C'est comme... Ils font des compromis chacun de leur bord, puis mais je pense qu'il faut se lancer de temps en temps. Mais bon, il y a encore des batailles à gagner. Les saillies de trottoirs, la santé publique veut pas qu'on plante dedans parce que souvent ça le contamine, tout ça. Dans Villeray, ils l'ont fait quand même avec des couches, ouais, avec des couches en lasagne, tout ça. Il y a vraiment des porte-paroles, des incroyables comestibles comme Richard Archambault qui sont des gens exceptionnels, qui sont des porteurs du mouvement, là, vraiment, là, ils sont de tous les combats de l'agriculture urbaine. Et il y a vraiment des beaux projets qui se font.
Mon nom est Guillaume, je suis votre chroniqueur nomade. Armé de ma caméra et de mes mots, je me transporte d'une région à l'autre pour vous ouvrir les yeux et les oreilles sur différentes réalités, sur différents enjeux auxquels sont confrontés vos semblables, ailleurs sur la planète ou dans la belle province. Il y a 8 ans, je parcourais l'Amérique du Sud pour y documenter les luttes des paysans. J'apprenais que l'accès à la terre est un défi de taille pour les petits cultivateurs, dans un pays où les grandes multinationales sont en train de prendre d'assaut le territoire. Mon dernier court-métrage, Un jardin sans lendemain, est une variation sur le même thème. Mais cette fois, j'ai choisi de parler de la lutte silencieuse qui se joue dans mon arrière-cour. Nous sommes sur le territoire de la ville de Québec, dans l'arrondissement de Charlebourg.
Fait que si vous êtes les derniers, selon vous, qu'est-ce que vous entrevoyez pour le secteur ici, la rue du Vignoble?
Il n'y aura plus rien dans 10 ans, il n'y aura plus rien. Enfin, 10-15 ans, là, ça va être bâti. C'est comme ça, tu peux pas changer rien à ça, là. Faut pas vivre dans le passé.
C'est ainsi que s'exprimait M. Derry, l'un des derniers à cultiver des terres sur la rue du Vignoble. Il semblerait que c'est inévitable, que ce mode de vie qui subsiste ici depuis plus de 300 ans serait en train de s'effacer en l'espace d'une génération.
Il faut qu'il y ait des taxes, que ce soit payant. C'est là où est-ce que finalement les élus municipaux deviennent intéressés. C'est quand il y a une possibilité qu'il y ait de l'argent qui soit fait avec ce dossier-là.
Il semblerait que c'est ça, l'évolution. Ici, en ville, cultiver des légumes serait-il devenu un anachronisme? Au bout de la rue, j'allais à la rencontre d'un de ces groupes qui osent jardiner contre le courant.
Donc ici, on est au jardin collectif La Tomate Joyeuse, sur les terres du Vignoble, au bout de la rue du Vignoble, à l'angle de Saint-David et Louis XIV. Au départ, on a commencé La Tomate Joyeuse sur les terres des Sœurs de la Charité, il y a 11 ans. Il y a 6 ans, on a fini par étendre la route de Saint-David. Donc là, il a fallu, on a été expropriés de notre jardin pour pouvoir faire les travaux de la route de Saint-David. Là, on se retrouvait de but en blanc sans jardin. Et puis, il y a le monsieur Lortie qui habite ici, qui lui a toujours cultivé sa terre, était agriculteur, qui a dit, moi j'ai un terrain là qui fait rien, donc si vous voulez, je vous le prête pour une secousse. Donc bon, ça fait combien de temps ça va? Une couple d'années, on va voir. Et puis, donc il nous a accueillis il y a 6 ans. On a défriché le terrain là, à la main, là, petit à petit, retiré les mauvaises herbes. C'était un champ, vraiment un champ, quoi. Que de l'herbe. Certaines bonnes, certaines mauvaises, mais il n'y avait pas beaucoup de légumes dedans.
Ici, je rencontre des gens qui ont d'autres valeurs en tête que la propriété foncière. Des gens qui apprennent à concilier leur vie active avec le travail au jardin, où ils se rendent une fois par semaine. Ils me font réaliser que manger des légumes qu'on a soi-même semés et récoltés, ça n'a pas de prix.
Je suis à ma première année de participer à un projet de jardin. Puis honnêtement, ça n'était pas dans mes préoccupations là, avant. Puis là, de revenir en ville puis de voir certaines initiatives, tout ça m'a donné le goût de participer puis d'apprendre puis de voir comment ça se passait et tout ça. Puis je deviens de plus en plus sensibilisée au fait qu'on a intérêt à cultiver nos légumes près de chez nous.
Il y a encore des échalotes.
Oui. C'est comme on travaille dans des bureaux, on n'est pas en contact avec la terre, avec l'environnement, tout ça dans notre quotidien. Puis là, c'est comme si c'était un temps de pause ou un moment différent là, de la vie quotidienne où est-ce que là, on reprend goût aux valeurs, je dirais, de base, là, tu sais, qui nous rapproche plus à ce qu'on est comme... être humain, puis être vivant avec tout l'environnement, l'écosystème et tout ça.
Hey, j'ai trouvé une carotte.
Hein?
Elle est un peu toute sèche.
Anthony, regarde la carotte.
Wow!
c'est un temps qu'on prend pour nous, pour être ensemble. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est la proximité, je pense, de la terre. T'sais, je sais que mon garçon... Il dira pas que les fraises, ça pousse au magasin, là. Il va savoir d'où ça vient. Il y a des trucs qu'on voit, tu sais, sur Internet. Mettons Jimmy Oliver qui s'en va dans les classes aux États-Unis. Puis il montre des patates aux enfants. Puis ils savent pas c'est quoi, une aubergine. Aucune idée. Ah, et que ça, cette connexion-là est super importante.
C'est l'heure de la pause.
Des maisons.
Des maisons.
D'après nous, ça va être des maisons. Parce qu'il y a, il y a trop de condos dans le Québec.
Ben oui.
Donc là, ça serait des maisons. Des maisons unifamiliales, là, des jumelées, là.
Ouais, ouais.
Des belles jumelées, maisons, pas d'arbres, avec de la belle pelouse en arrière, puis de l'asphalte.
Ah, beaucoup de béton.
Ouais.
Beaucoup de béton, hein? Puis de l'asphalte.
C'est
terrible parce que c'est une terre ici, là. On est en train de cultiver une terre qui fait 350 ans qui est cultivée. C'est une terre, tu sais, vraiment, là, à la limite, on est dans le limon du fleuve, là. Tu sais, on est vraiment, vraiment dans les premières terres, là. Donc,
ah oui.
Ouais. Donc, c'est malheureux parce que d'ici quelques années, ça va être des condos, ben, des maisons.
Et ici, là, c'est pas vendu encore.
Non, mais c'est sur le point. On n'a pas d'informations précises, mais on sait qu'il y a un promoteur qui a tout acheté les terres autour, donc ils ne passeront pas à côté de ce beau terrain-là. Hein.
Non, c'est ça. C'est pour des condos, hein, naturellement.
Des maisons, on pense.
Des maisons, ouais.
Les condos, il y en a beaucoup dans la région de Québec.
Oui, hein.
Depuis la fin des années 70, des terres comme celle de la rue du Vignoble sont protégées, en théorie, par la loi sur la protection du territoire agricole. Pourtant, cela n'a pas empêché des promoteurs immobiliers d'acquérir, en quelques années seulement, la majorité des terres dans le secteur, pour plus de 10 fois leur valeur. Le résultat d'une telle spéculation, des hausses de taxes faramineuses pour les propriétaires des terres avoisinantes. Une semaine avant le tournage de mon film, j'apprenais que la terre de M. Lortie, dont la valeur avait grimpé de 1000% l'année précédente, venait d'être mise en vente. C'est une des dernières terres ancestrales encore cultivées aujourd'hui. Des dizaines de familles y ont accès et continuent d'y faire pousser leurs légumes. Y a-t-il un réel avenir pour les terres agricoles en zone urbaine? De nombreux jardins collectifs nous démontrent que cette avenue est possible et même souhaitable pour la population. Maintenant, comment fera-t-on pour assurer leur pérennité pour les futures générations?
À 16 heures, le soleil, encore haut et chatoyant, a amorcé son déclin vers les collines. Les derniers visiteurs ont quitté le jardin, qui m'appartient maintenant entièrement. Ma vieille griffe à trois dents sur l'épaule, j'emprunte le sentier qui longe les jardins anglais à leur paroxysme en ce début de juillet. Les étoiles immaculées des marguerites contrastent avec le rose tendre de la mauve musquée et le jaune vif de l'œnotère. En surplomb, les fleurs de valériane, d'un rose crème pour les unes, d'un blanc soyeux pour les autres, embaument l'atmosphère de leur fragrance soporifique. Les pavots de Californie et les érigérons confèrent une note ludique au tableau que je prends le temps de contempler. Je poursuis ma marche solitaire, un sourire tranquille aux lèvres. Une fois rendu là où fleurissent les oignons pour la production de semences, je remue délicatement la terre entre les plants à l'aide de ma griffe. Je travaille la terre de cette façon tous les 10 jours, en début de saison. En plus de contrôler la compétition, l'ébinage brise les canaux d'évaporation de l'eau du sol, ce qui économise sa réserve d'humidité. Ce travail superficiel introduit également dans le sol de l'oxygène, qui stimule l'activité des micro-organismes responsables de la mise en circulation des éléments nutritifs et de leur assimilation par les végétaux. Enfin, l'intervention brise la croûte superficielle du sol et donne à la terre un aspect souple et grumeleux, ce qui met en valeur le paysage créé. Mon rythme de travail se régularise. Par le jeu de ma griffe, j'ouvre et je caresse cette terre que j'aime tant. La lumière est belle, l'air confortable. Je faufile ma griffe entre les longues tiges rondes et creuses au sommet desquelles s'épanouissent les inflorescences d'oignons. Les ombelles sphériques réunissent des centaines de fleurs blanches qui convient les butineuses au libertinage. Les syrphes, les guêpes et les abeilles sont légions. Une fois fécondées, les fleurs donneront les capsules où mûriront les semences. Le binage est ma méditation. L'activité me permet de communier intimement avec mon milieu, tout en évacuant la rationalité de mon esprit. En m'abandonnant au mouvement de ma griffe, je baigne dans un calme bienfaisant. La frontière qui me sépare des plantes, des pierres et des insectes s'estompe. Je deviens partie intégrante de mon univers. Je suis en paix, sans autre attente que mon prochain coup de griffe, le battement d'ailes du papillon, le chant du merle ou le murmure de l'eau. Je suis bien. Je suis, tout simplement.
Un texte tiré de Un seul jardin par Yves Gagnon. Narration, Marie-Claude Tardin.
Chacun, je me nourris essentiellement d'air pur. Le reste n'est que du superflu. Mon estomac aime l'inutile arrogance des mets colorés auxquels on additionne régulièrement le méfait de quelques goûts artificiels. Un bonbon pour une bombance bien ballonnante et des radis le soir pour récupérer l'erreur diététique. L'humanité n'a rien trouvé de mieux que ceci, mis à part la sagesse et le goût du peu. Les bons hommes bien gras et les bonnes dames bien en chair, ragaillardies de petits marmots roulants, sont un vrai sac de billes dans la poche d'une ville éloignée le plus possible du ciel clair et des eaux de source. À croire que l'homme cherche à se séparer le plus possible du monde sain qui l'entoure par des cercles de peau flasque et d'artificielles nécessités. Moi-même, je m'assure d'aimer l'artificiel, car sans lui, l'esthétique posée sur le sublime du monde n'aurait plus de raison d'être. Et alors nous serions à nouveau confrontés à la peur et à la conscience de notre minuscule pouvoir sur le réel. Cependant, je n'ose imaginer le bonheur indéfectible que doit ressentir un homme à l'abri de l'illusion, bien au clair de sa personne, face à une mer verte de plantes épanouies. Mangeant sans excès, il est la nature même incarnée en l'homme, un rustre bienveillant, ourdissant dans l'ombre la chute des industries et le départ nouveau de la belle civilisation première. Ce primate n'aurait néanmoins pas compris l'essence de l'évolution, et sous couvert d'un retour à la beauté du peu et du premier point qui naquit dans le vide, il ne voit pas l'architecture fabuleuse de l'homme évolué. L'artificiel, certes, est odieux, mais ne l'est-il pas tout autant que l'état brut de nature? Je dirais que chacun a ses défauts que l'autre répare. Repartir à zéro et l'erreur régressive, étendre à l'infini, preuve d'un orgueil sans borne chez l'humain. Pourquoi ne pas trouver un chiffre intermédiaire? 1 me vient à l'esprit, 42. La question est pourquoi ?
La poule chante clair. À la fin des années 1800, un moine trappiste d'Oka commence à travailler ardemment à la création d'une poule qui serait bien adaptée au Québec. Le frère Wilfrid Châtelain est le généticien qui a fondé la poule chante clair. En 1918, la race est complètement sélectionnée et elle est reconnue mondialement en 1921.
Depuis l'arrivée des poules pondeuses commerciales, la Chantecler est une race rare, voire même menacée. Elle fait pourtant partie de la biodiversité québécoise à sauvegarder. En 1999, le gouvernement l'a décrétée poule patrimoniale du Québec. La Chantecler est vigoureuse, costaude et très rustique. C'est une excellente poule autant pour la ponte que pour la chair. Lorsque la luminosité diminue, les races pondeuses commerciales diminuent ou cessent complètement de pondre. On doit leur fournir un éclairage artificiel. Pour cela, la Chantecler est vraiment intéressante car elle continue à pondre pratiquement tout l'hiver. C'est une excellente poule à utiliser pour produire de la chair. Elle se prête bien à l'élevage en pâturage, mais gare aux prédateurs, car elle est vigoureuse et forte. Pas de maladies de pattes faibles comme en développent les races à chair communes. Ainsi, elle mangera moins de grains et beaucoup de verdure, ce qui donne une chair plus savoureuse. Notez aussi que les animaux élevés à l'extérieur et leurs œufs ont une plus forte teneur en protéines. La Chantecler est originellement blanche, mais aujourd'hui on en retrouve au plumage rouge et noir qu'on nomme perdrix. Ce sont deux races homologuées officiellement reconnues par l'American Poultry Association. Une Chantecler dorée, la fauve bof, est en voie de l'être aussi. Monsieur Auclair travaille depuis 6 ans à développer une race noire. Elle est presque au point. Il existe aussi des races miniatures telles que les Chantecler Bantam, qui sont de couleur blanche et perdrix. Le coq a une crête toute petite, dite coussin, et les barbillons sont courts. Ces organes servent en fait à la transpiration, ce qui est très utile pour une poule tropicale, mais c'est la première chose qui gèle, ce qui cause même la mort de l'animal. Chez Madame Chantecler, la crête est presque complètement absente. Le plumage est fourni, mais serré au corps, pour empêcher le vent d'y pénétrer. Cette race de poule se prête bien à l'agriculture bio. Monsieur Auclair fait des cages longues faites de grillage et sans plancher, de la largeur des sentiers entre ses planches de culture. La poule qui y vit va manger toute l'herbe et les insectes qui s'y trouvent. Un véritable sarclage. Plusieurs poules se prêtent à cette utilisation, mais la Chantecler est intéressante du fait qu'elle est vraiment très active. Cette dodue a une longévité de 5 à 7 ans, elle pond beaucoup les deux premières années, et ensuite elle fera une excellente couveuse, tout en continuant à pondre de manière irrégulière. À noter que plus la poule est vieille, et plus son œuf est gros. Le poussin qui est incubé est plus costaud du fait que l'œuf lui procure plus de réserves. La Chantecler est donc une race de poule à découvrir et, surtout, à propager. Car c'est important de sauvegarder notre patrimoine québécois. Un texte de Marie-Noëlle Gaudreau, tiré de Aube, le recueil de solutions.
En avant, voilà le quadrille. Un par un est bien détaché. Vers la droite, les garçons, les filles. Attention, là, on va changer. Vers la gauche, suivez la musique. Bien en ligne, le pied léger. Écoutez ce qu'on nous explique. Attention, on va s'arrêter.
Suis-je transgénique ou biologique? Devrais-je montrer mon petit côté grano auprès de la nature ou mon côté futuriste avec mon portable et ma caméra numérique?
Mais vous êtes les deux, Monsieur Mini-Roots.
Oui?
Mais oui! Avec le protocole de Cartagena sur la biosécurité, tu n'as plus à t'inquiéter. Tes propriétés sont protégées pour l'éternité.
Oui, mais mes voisins du Sud dépendent régulièrement des semences transgéniques. Mais qu'est-ce que je peux faire?
Ne t'en fais pas. Personne ne connaît les propriétés mutagènes des aliments transgéniques. Tout le monde t'aime quand même.
Oui, mais je me sens coupable de porter en moi des gènes aussi controversés que le gène Terminator.
Mais ce n'est pas grave. Avec la complicité des gouvernements, les compagnies ne sont même pas obligées d'écrire la vraie origine des ingrédients sur les étiquettes.
Ah bon? Alors je pourrais introduire des gènes de scorpion, de chèvre, de poisson ou de chromosomes mutants venus du tiers-monde?
Mais bien sûr que oui.
Non, je refuse d'être ainsi manipulé.
Il est déjà trop tard, Monsieur Mini-Roots. La diversité touche à sa fin.
Non, mais c'est terrible!
Nous sommes sur une plage.
Oui, alors, plage paradisiaque, cocotier, mer turquoise, sable blanc...
Enfin, l'Éden, quoi.
Deux femmes.
Alors, deux bombes.
Évidemment.
Court sur le sable.
Longue focale sur les jeunes filles. Pamela prend la parole.
En fait, je considère que l'exégèse onomastique se trouve en but au rédhibitoire herméneutique, tu vois.
Christina rétorque.
Ah oui, mais alors attention, Pamela. Tu glisses doucement vers une paronomase ontologique, là.
Mais pas du tout. C'est juste un solipsis allégorique, ça n'a rien à voir. Tiens, regarde. Elle se penche sur l'équation...
Je t'ai fait une équation pour que tu comprennes. Si on prend comme hypothèse que la racine cubique de x varie en fonction de l'infini...
Ah, d'accord. Tu n'as plus qu'à subdiviser l'ensemble qui tendra vers l'asymptote.
Exactement. C'est bon, j'ai compris.
Ils repartent en rigolant. Packshot, Starlight, pour rester mince, sauf dans sa tête.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt, en début d'émission, vous avez entendu une entrevue avec Marie-Vincent sur les incroyables comestibles.
Un reportage de Guillaume Gérard sur l'impact du développement immobilier sur les terres agricoles.
Et Un seul jardin, un texte de Yves Gagnon présenté par Marie-Claude Tardy.
À venir dans la deuxième partie, les conséquences environnementales de nos choix alimentaires.
Et Le troupeau aveugle, une présentation du livre de John Bruner.
Vivre dans un pays qui se donne les moyens de rester petit. Nous voulons vivre dans un pays qui n'est la colonie d'aucune compagnie. Nous voulons vivre dans un pays qui moissonne la vie comme si c'était la sienne. Un pays qui enseigne à ses enfants que le monde autour est le territoire de ce que nous sommes. Nous voulons être un peuple de jardiniers, un peuple sans résidus de médicaments, un peuple sans intrants. Les paysans avaient raison. Il nous faut capituler, amis. Ici, chez les vivants, sous le soleil, tout est lié. Nous voulons vivre dans un pays qui se souvient que notre métier d'humain est de cultiver des liens avec ceux d'avant, avec ceux d'après.
Un texte de Hugo Latulippe, tiré de la série documentaire Manifeste en série, de l'épisode Moissonner le pays.
L'agroalimentaire figure parmi les industries les plus dévastatrices pour l'environnement. Pesticides, herbicides, épandage de fumier, résidus d'antibiotiques et d'hormones, déforestation, usines de transformation, enfin bref, j'en passe et des meilleurs dans les réjouissances. En plus des conséquences environnementales, l'agriculture moderne a aussi de lourdes conséquences politiques et sociales. Par exemple, la plupart des pays du Sud se sont fait déposséder de leurs meilleures terres par les multinationales qui exploitent leurs habitants ou les forcent à fuir dans les bidonvilles. De plus, les choix alimentaires et les produits issus de l'industrie sont largement responsables des maladies chroniques et propres aux sociétés occidentales. Diabète, cholestérol, problèmes cardiovasculaires, cancer ou encore démence. Certes, il faut manger, mais il est possible de le faire en ne contribuant pas à la destruction environnementale et à l'exploitation des pays du Sud. C'est à ce défi que Laure Varidel a consacré son dernier livre, « L'envers de l'assiette et quelques idées pour la remettre à l'endroit ». À l'heure actuelle, un habitant de l'Amérique du Nord consomme autant que 12 habitants du Sud. Si tous les êtres humains consommaient à la manière d'un Nord-Américain, il nous faudrait de 3 à 5 planètes comme la nôtre pour pouvoir vivre. Pour modifier nos habitudes de surconsommation, l'auteur y propose les 3 NJ. Nu, non loin, naturel et juste. Nu tout d'abord, c'est-à-dire non emballé, car l'emballage, même s'il est recyclé, soit plastique, le carton, cet emballage donc entraîne beaucoup de pollution. À cause de leur mode de vie effréné passé à l'extérieur, les gens n'ont plus le temps de cuisiner. On achète donc de plus en plus d'aliments prêts à manger dont les emballages finissent dans les poubelles. Selon le livre, nous fabriquons aujourd'hui 80% plus d'emballages qu'en 1960. Et la fabrication des emballages eux-mêmes, que ce soit le plastique, le carton, le styromousse ou le métal, est très très polluante. Ceux-ci ne répondent plus à la demande et contaminent le sol et la nappe phréatique en permanence pendant que les incinérateurs dégagent des gaz toxiques qui contribuent au smog et au réchauffement climatique. Donc la question c'est, comment diminuer, voire éliminer les emballages de notre quotidien ? Alors on peut acheter en vrac, on peut traîner sa tasse avec soi, on peut apporter son lunch au travail, ou alors éviter encore d'aller dans les restaurants qui servent dans du styromousse ou du plastique. On peut aussi cuisiner ou acheter moins de prêts à manger, et en dernier recours, recycler. L'autre N, c'était le non loin, pour diminuer la consommation de pétrole liée au transport. La mondialisation des marchés a vu les importations et les exportations de denrées alimentaires augmenter exponentiellement ces dernières années. Ce phénomène entraîne des situations pour le moins ridicules. Par exemple, au mois d'août, il est de plus en plus difficile, voire même impossible, de trouver des bleuets du lac Saint-Jean, qui sont presque tous exportés aux États-Unis pendant que nous en importons de Californie. Autre exemple cité dans l'envers de l'assiette. Au cours de l'année 2000, le Québec a exporté plus de 7000 tonnes de pommes fraîches et en a importé presque le double. Je souligne qu'au Québec, on importe des pommes. Très souvent, pour toutes sortes de raisons causées par la loi du marché, il arrive même que les produits importés soient moins chers que les produits locaux. Il est pourtant possible de s'approvisionner plus près de chez nous. Acheter la pomme du Québec plutôt que celle de Nouvelle-Zélande, même si elle est un peu plus chère. Aller au marché public pour avoir accès aux petits producteurs de viande, de produits laitiers, des fruits et légumes et des produits du terroir. Manger aussi selon les saisons. Acheter les paniers bio d'un producteur local. Aller faire de la cueillette de fruits. Avoir son jardin. Participer au programme ASC, Agriculture soutenue par la communauté, qui met en contact les agriculteurs locaux et les citadins. Troisième N, naturel, pour ne pas participer à la dégradation environnementale causée par l'agriculture industrielle et pour éviter d'être empoisonné par les produits chimiques toujours plus nombreux qui contaminent nos assiettes. Les OGM, les colorants, les résidus de pesticides, les résidus d'hormones, les antibiotiques, etc. Ces produits auraient, selon l'envers de l'assiette, de graves conséquences sur la santé humaine. Perturbations de l'équilibre hormonal, du système reproducteur, du système immunitaire, des facultés intellectuelles, la provocation de cancer, les troubles du comportement, etc. La meilleure façon de manger naturel, donc, ce serait d'acheter le plus possible des aliments bio et non transformés, de lire les étiquettes, d'avoir son jardin et de ne pas encourager les monocultures ni les fermes d'élevage. De nombreux pays du Sud, pour payer leurs dettes, sont forcés par la Banque mondiale d'exporter la plupart de leur nourriture et à en produire toujours plus pour toujours moins d'argent. C'est ainsi que les meilleures terres appartiennent à une poignée de multinationales et servent à nourrir les marchés les plus riches plutôt qu'à alimenter les populations locales. Moins de 2% du prix d'une banane vendue au supermarché revient à celui qui l'a cultivée et cueillie. Il en est de même pour le café, la canne à sucre, certains fruits exotiques. Ce sont souvent les paysans du Sud qui font les frais de nos bas prix. Pour une alimentation juste donc, s'informer d'où viennent les aliments que nous consommons, éviter d'acheter les marques des multinationales même si elles sont moins chères et encourager le commerce équitable et local. Plus du tiers de la population mondiale de graines actuelles sert à nourrir du bétail plutôt que des gens. Si toutes ces céréales étaient directement destinées à l'alimentation humaine, on pourrait nourrir près du double de la population mondiale actuelle. La production de viande requiert de 10 à 20 fois plus d'énergie que la production de céréales. Selon d'autres sources, le bétail des pays riches mange autant de céréales que tous les Indiens et les Chinois réunis. Un cheptel de 100 000 bovins en Californie consomme chaque jour 850 tonnes de maïs, de quoi nourrir 1,7 million d'Africains. Chaque minute, 50 hectares de forêts tropicales humides disparaissent du globe pour faire de la viande et chaque boulette de viande pour hamburger fait disparaître 5 mètres carrés de forêts tropicales. La prochaine fois que vous allez faire des courses, essayez de réfléchir à peut-être 2 ou 3 arguments de ces livres-là pour essayer de modifier légèrement votre manière de consommer ou tout simplement essayer de réfléchir à votre comportement d'achat pour peut-être changer 2 ou 3 petits éléments qui pourraient faire toute la différence.
Un texte de Marie-Josée Veilleux, tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration, Aurélie Suberchico.
Des beaux légumes pour tout le monde, des navets puis des laitues, des oignons puis des concombres et puis 2 choux-fleurs.
Des beaux légumes pour tout le monde, du maïs puis des carottes, des tomates puis des poireaux puis des pommes de terre.
Je suis un navet vert, je pousse sous terre, je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis une laitue tutu, je veux être mangée, j'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Pousse, 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 les beaux gros légumes, pousse, 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 de plus en plus gros. Miam, 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 les beaux gros légumes, miam, 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 j'ai hâte d'en manger.
Je suis un oignon, gnon, gnon, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour, on me déterre. Je
suis un concombre. Je veux être mangé. J'ai hâte qu'on vienne me récolter.
Je suis une pomme de terre, terre, terre. Je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis un chou, fleur, fleur, fleur. Je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Pousse, pousse, pousse. Les bons gros légumes. Pousse, pousse, pousse. De plus en plus gros.
Comme c'est agréable de se promener dans la nature et de sentir de multiples odeurs enivrantes flotter autour de nous. Les mille et une fleurs qui libèrent leur parfum sont malheureusement éphémères, surtout dans notre climat. Si on veut préserver un peu de ces odeurs pour les saisons endormies, il existe une méthode relativement simple et peu coûteuse qui se nomme l'enfleurage. C'est une technique ancestrale et je dirais même millénaire que nos ancêtres utilisaient pour capturer les odeurs. Il existe deux sortes d'enfleurage, la méthode à chaud et la méthode à froid. Pour faire l'enfleurage à froid, on a besoin de plantes odorantes, d'un plat hermétique ou de deux planches de verre et de graisse végétale, exemple beurre de coco. On remplit notre plat de gras ou on étend une bonne couche sur notre planche. Ensuite, on fait des rangées avec une fourchette et on remplit les espaces avec des fleurs. On ferme le tout hermétiquement et on remplace les fleurs à toutes les 24 heures jusqu'à ce que notre gras soit saturé d'odeurs. Pour l'enfleurage à chaud, le principe est le même, sauf que c'est plus rapide. On chauffe le gras et on fait macérer des fleurs dedans jusqu'à ce que l'odeur soit transférée. On répète l'opération jusqu'à ce que le gras soit assez odoriférant. Le hic avec la méthode à chaud, c'est que ce ne sont pas toutes les fleurs qui tolèrent la chaleur, comme le muguet et le lilas. Peu importe la méthode choisie, on a maintenant une pommade parfumée que l'on peut utiliser telle quelle ou continuer le processus pour se rapprocher de l'absolu. Pour faire un absolu, on n'a qu'à faire macérer le gras dans l'alcool pendant une semaine en agitant fréquemment. Une fois que l'odeur est transférée dans l'alcool, on met le tout au frigo, histoire de faire figer le gras, et on filtre l'alcool. Si on fait évaporer un peu d'alcool, l'odeur deviendra plus concentrée et se rapprochera davantage de l'absolu. Cette méthode d'extraction des odeurs est la plus ancienne. C'est avec celle-ci que, depuis la haute antiquité, les peuples ont utilisé les odeurs des plantes. Les Égyptiens, par exemple, les utilisaient pour se parfumer et pour embaumer les morts. Cléopâtre aurait même séduit Jules César en appliquant des huiles parfumées sur les voiles de son bateau. Alors, laissez-vous porter par la légèreté des odeurs.
Un texte de Nathalie Dubé, tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration, Marie-Claude Journeau. En ce début de 21e siècle, la Méditerranée est une mer morte. Certains jours à New York, il pleut de l'acide. Les microbes résistent aux antibiotiques et l'eau du robinet n'est potable qu'un jour sur deux.
Voici le portrait troublant et inquiétant d'un futur apocalyptique éventuel, relaté dans le roman de John Brunner. Le troupeau aveugle laisse peu de place à une vision optimiste du futur, regard réaliste voire pessimiste d'un univers voué à la catastrophe. Dans cet univers, le soleil brille rarement.
Pas d'étoiles. Apparemment, on ne les avait pas vus cet été.
Il n'est plus possible de sortir dans la rue sans son masque, sous peine de se retrouver avec la gorge irritée et saisie de toussotement. Prenant maintenant place à côté des machines distributrices, le distributeur d'oxygène fait de plus en plus de consommateurs. Avoir un enfant qui ne fait seulement que de l'asthme est le rêve de toute famille dans ce monde malade. Par exemple.
Même à cette distance de la côte, l'air de la nuit était chargé d'une odeur pestilentielle. La mer se soulevait lourdement et sans bruit. Les vagues sans crête venaient avorter sous la couche de résidus huileux qui entourait la coque et qui était aussi imperméable qu'une feuille de plastique.
Ou encore...
Il y avait là des détergents, des eaux d'égout, des produits chimiques industriels et des fibres de cellulose microscopiques provenant des journaux et du papier hygiénique. On ne voyait aucun poisson venir briser la surface. Il n'y avait pas de poisson.
Et encore pire...
L'eau ressemblait davantage à du mazout. Elle était noirâtre et remuait à peine sous l'action du vent. En bordure du sable, il y avait une ligne de démarcation sommaire constituée de déchets, surtout en plastique. De grands panneaux proclamaient « Baignade dangereuse sur cette plage ».
L'invasion d'une récolte par un insecte nommé le gigras, en plus d'une épidémie d'entérite, une forme aiguë de tourista, généralisée à toute l'Amérique du Nord, ramène l'humanité sur le bord de la guerre civile. Le tiers de la population active est malade, et les récoltes sont détruites par ce nouvel insecte récemment introduit par un pays soi-disant ennemi. Les services publics, tels la collecte des ordures, sont paralysés à cause d'un manque d'effectifs. Les rues des grandes villes sont impraticables, ensevelies sur des tonnes d'ordures ménagères. Sans parler de la pénurie d'eau potable provoquée par les 60 millions de malades qui flushent leurs toilettes en raison de plusieurs fois par heure.
Incendie de rivière, linge étendu sur une corde qui se salit automatiquement, folie collective, épidémie, maladie chronique, invasion d'insectes.
Chaque paragraphe contient en lui-même le germe d'une malédiction, qui s'abat inlassablement sur les personnages. Page après page, Brunner nous met en garde contre les catastrophes écologiques, maintenant d'actualité, qui menaçaient la civilisation occidentale de son époque. De par son côté ironique, il semble nous dire qu'il n'y a plus d'espoir. Son roman nous ouvre tout de même les yeux sur l'étendue des dommages portés à notre environnement. Il faut lire ce livre avec une teinte d'humour et ne pas le prendre trop au sérieux. Je l'entends ricaner des subtilités de son humour noir. L'on doit commencer ce livre qu'après s'être assuré que notre morale est à son plus fort. Car une fois la lecture entamée, tous les maux de notre société semblent amplifiés. Pourquoi alors lire un tel livre ? J'imagine que certains écologistes sont masochistes.
Regarde, chérie, un oiseau.
Mais il ne fut pas assez rapide.
Le troupeau aveugle, un livre de John Brunner.
Un texte de Philippe Laramé.
Narration, Jean-Baptiste Gardarin.
J'avais trouvé une occasion de développer ma force, un soir où je lavais des feuilles de salade. Qui l'aurait cru? C'était pourtant pas des feuilles d'épinards. Et le geste même de laver de la laitue comporte pas en soi tant de noblesse qu'on en devienne tout à coup puissant. Et pourtant... Je sais l'homme de la maison dédaigneux des petites bêtes friandes des feuilles de salade. L'homme de la maison, en d'autres temps grand, solide et chasseur de toutes mes anxiétés, devient, devant une salade hébergeant de minuscules insectes, pâle de dégoût. Un ou deux moucherons, ça passe encore, mais quand la laitue est en surcharge pondérale, il la balance à la poubelle sans même lui laisser le temps d'appeler son avocat. J'ai remarqué que ces bestioles se nichent dans les replis des salades les plus craquantes. Mais moi, tant que je vois pas des signes évidents d'une attaque, comme des taches jaunes ou des trous dans la verdure, je préfère laver que jeter. Et on parle pas de perce-oreilles ou de larves géantes, là. Auquel cas, mon dédain au maître grimperait d'un cran. Non. On a ici simplement qu'à rincer pour voir ces dociles bestioles partir pour un long voyage de l'évier vers... je sais pas trop où, mais qui doit sûrement rimer avec mort certaine. Quoique j'en vois plusieurs qui s'agrippent ou qui se cachent plutôt bien. Plusieurs fois, j'ai essayé de montrer à l'homme de la maison la beauté de la chose, la preuve même de la vitalité du légume à feuilles. Enfanté par la terre et nourri par ses amants, l'eau et le soleil, que de petits visiteurs ailés viennent s'y nourrir ne devrait pas nous surprendre ni nous rebuter outre mesure. Au contraire, n'est-ce pas là le signe évident de la qualité du produit? Mais l'homme de la maison ne voit pas la chose du même œil. Toujours est-il que devant l'évier ce soir-là, découvrant la laitue plutôt bien colonisée, chaque pouce garni d'au moins une dizaine de moucherons, je dis rien à l'homme de la maison, sous peine de lui couper l'appétit. Je lui dis pas et je me mets aussitôt à la tâche. Je me sens forte. Oui, je me sens forte parce que je retrouve en cette capacité à gérer cette épidémique situation toutes mes années de camping sauvage, du temps où je vivais avec l'homme téméraire. T'en fais pas, ma punaise, c'est des vitamines de scout qui me disaient chaque fois que j'avais des dents d'une possible bestiole oubliée dans une salade fraîchement lavée. Ça me faisait rire quand tu disais ça, l'homme téméraire. Ça me faisait rire et puis ça me rendait plus forte. L'expression « les petites bébites mangent pas les grosses » prenait alors tout son sens. J'ai passé un sacré bout de temps devant l'évier à défriser cette laitue. Repli par repli, toute cavité de l'alcôve de ces bêtes passée au peigne fin de mes doigts sous le microscope de mes yeux. En moins d'une heure, et à l'aide de l'eau du robinet, la population entière décimée. L'homme de la maison me voit faire, triple rinçage et examen complet de chaque feuille, mais, affairé à d'autres tâches culinaires en vue du souper, il se rend pas compte que je lave la laitue d'une façon fort improbable. Moi qui, d'ordinaire, et pour économiser l'eau, me contente d'un seul rinçage, mes gestes méticuleux auraient pu éveiller ses soupçons. Et non. Ce soir-là, comme tous les autres soirs, l'homme de la maison mangera sa salade avec appétit. Sourire en coin, j'en ferai de même. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, disait ma grand-mère. Faut bien commencer quelque part.
Texte et narration, Caroline Legault.
To the town of our free rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip. Big iron on his hip. It was early in the morning when he rode into the town. He came riding from the south side, slowly looking all around. He's an outlaw loose and running, came the whisper from each lip. And he's here to do some business with a big iron on his hip. Big iron on his hip. In this town there lived an outlaw by the name of Texas Red. Many men had tried to take him, and that many men were dead. He was vicious and a killer, though a youth of 24, and the notches on his pistol numbered 1 in 19 more. 1 in 19 more.
Now the stranger started talking, made it plain to folks around. Was an Arizona ranger, wouldn't be too long in town. He came here to take an outlaw back alive or maybe dead. And he said it didn't matter, he was after Texas Red. After Texas Red. Wasn't long before the story was relayed to Texas Red. But the outlaw didn't worry, men that tried before were dead. 20 men had tried to take him, 20 men had made a slip. 21 would be the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. The morning passed so quickly, it was time for them to meet. It was 11:20 when they walked out in the street. Folks were watching from the windows, everybody held their breath. They knew this handsome ranger was about to meet his death. About to meet his death. There was 40 feet between them when they...
C'est ce qui conclut le 5e épisode de Aube.
Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via iTunes, laplumedefeu.com et via SoundCloud.
Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci car chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Si vous avez 2 secondes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, Facebook ou Twitter.
Chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Guillaume Lambe, Philippe Laramé, Jean-Baptiste Gardarin, Aurélie Subert-Chicot, Caroline Legault, Marie-Claude Tardy, Guillaume Girard et Hugo Latulippe.
À la co-réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.